Radio Kapi.
Avec Blaise Jordan Shindani Kambala.
Procès contre Joseph Kabila. Les avocats de la partie civile réclament plus de 24 milliards de dollars au titre des dommages et intérêts causés à l'État congolais par l'ancien président de la République. Ces avocats ont plaidé jeudi devant la haute cour militaire la réqualification de l'infraction de trahison en espionnage à charge du prévenu. Trois mois après sa nomination, le nouvel IGF a reçu les explications sur la bonne marche de son institution auprès du premier président de la Cour des comptes. Selon le magistrat Jimmy Munganga, tous les organes de contrôle ont l'obligation de transmettre leur rapport sur les finances publiques à la Cour et non au pouvoir judiciaire, car, dit-il, il s'agit des fautes de gestion. L'invité de ce journal, c'est le coordonnateur de l'ONG PAMI, programme d'appui à la lutte contre la misère. Clément Baukave Ntaboba nous parle du projet de réduction des violences communautaires que son organisation vient d'exécuter dans les territoires de Nirangongo. Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons ce journal par le bloc justice. Au procès contre Joseph Kabila, sénateur à vie, les avocats de la partie civile réclament plus de 24 milliards de dollars au titre des dommages et intérêts causés à l'État congolais par l'ancien président de la République. À l'audience publique de ce jeudi devant la haute cour militaire, ils ont plaidé pour la réqualification de l'infraction de trahison en espionnage à charge du prévenu, car, estime-t-il, il s'agit d'un étranger d'origine rwandaise qui aurait usurpé la nationalité congolaise dont il devra être déchu. Rappelons qu'à l'audience introductive, le ministère public avait présenté Kabila comme congolais, fils de Laurent Désiré Kabila et Madame Sifa. Mais la partie civile parle d'une fraude orchestré par feu le ministre de la Défense Ngoï Mokena, qui lui avait attribué le nom de Kabangé alors qu'il s'appelait Hippolyte Kanambe. C'est ce vendredi qu'est prévu le réquisitoire de l'organe de la loi avant le verdict. Justice encore, François Béa, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a été acquitté ce jeudi par la haute cour militaire. Ses co-accusés, colonel Kalenga et Twadi Sekele, ont été également acquittés. Seuls les colonels Tambwelili et Sipata Tite ont été condamnés à 17 mois de prison pour violation des consignes en se déplaçant à Kasangulu sans autorisation. Mais ils ne vont plus retourner en prison car ils ont suffisamment passé leur temps en détention. Rappelons que l'ex-patron du Conseil national de sécurité était poursuivi depuis juin 2022 pour complot contre le président de la République, offense à celui-ci, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et violation des consignes. Fait déclaré non établi. Restons dans la capitale. 42 greffiers pénitentiaires, civils et militaires, dont 16 femmes, ont reçu leur brevet ce jeudi, marquant la fin de la cinquième session de formation intensive de 3 mois dispensée par l'Institut national de formation judiciaire INAFORGE. Selon les directeurs de cet établissement, les lauréats ont acquis des compétences dans plusieurs domaines clés du système judiciaire. Quelques autorités ont pris part à cette cérémonie, dont les vice-premiers ministres de la Défense nationale et le ministre d'État en charge de la justice. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Durant leur formation trimestrielle, ces lauréats ont bénéficié des notions en diverses matières, dont les droits de l'homme en milieu carcéral, l'éthique et déontologie de l'agent public, la sécurité pénitentiaire, les métiers de l'ordre public, l'organisation et compétences judiciaires et l'informatique appliquée. Le ministre d'État en charge de la justice a salué l'engagement des participants et souligné que cette session s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à renforcer les capacités des agents de l'État pour un meilleur encadrement du système pénitentiaire. Il a cependant exhorté les nouveaux greffiers à veiller à la légalité et à la régularité des détentions tout en participant aux réformes en cours. Guillaume Ngefa Tondoko.
Votre métier exige de chacun et de chacune un engagement renouvelé, un professionnalisme éprouvé, une discipline sans faille. Soyez des modèles de probité, discipline et de respect des droits de l'homme.
Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a rapporté que cette formation symbolise l'engagement du gouvernement à renforcer l'état des droits et à professionnaliser la justice congolaise. Guy Kabombo Modian Vita a par ailleurs réaffirmé son attachement et celui de son ministère à la modernisation de la justice militaire.
Libéré Maître Médard Palankoy, 5 mois d'enlèvement et de détention prolongée par le CNC, c'en est trop, lance la chaire congolaise des droits de l'homme, CCDH. Elle exige depuis hier jeudi la libération sans condition et immédiate de l'avocat enlevé de son cabinet de travail au mois de mars par les services de sécurité sans en donner aucune raison et conduit dans les locaux du Conseil national des cyberdéfenses. Ses confrères avocats saisissent aujourd'hui vendredi les vice-premiers ministres de l'Intérieur à travers leur mémo à l'issue d'un rassemblement public devant le ministère. On écoute à ce sujet le président de la CCDH, Maître Éloi Mobilan Sam, est au micro de Jeff Ngoï Molonda.
Nous organisons ces rassemblements en soutien à Maître Médard Palankoy Lakwas, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, qui a été enlevé à son cabinet le 14 mars 2025. Aujourd'hui, ça fera 5 mois qu'il est aux arrêts, qu'il est gardé au secret en violation de la Constitution de la République en ses articles 18, 19. L'article 18 proclame que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et doit être assisté d'un conseil de son choix dès le début de l'enquête, voire même devant les services de sécurité. Maître Médard Palankoy, il n'est pas assisté. Nous exigeons que Maître Médard Palankoy soit libéré, tout de moins qu'il soit assisté par son conseil et que ses droits élémentaires soient garantis.
Rapport IGF Cour des comptes. 3 mois après la nomination du nouvel inspecteur général des finances, chef des services Christophe Bita Simoa, le premier président de la Cour des comptes lui a expliqué ce jeudi les rapports qui doivent les guider en matière de contrôle des finances publiques conformément à la loi. Selon le magistrat Jimmy Munganga, tous les organes de contrôle ont l'obligation de transmettre leur rapport sur les finances publiques à la Cour, car, dit-il, il s'agit de fautes de gestion. Mais il se fait souvent qu'ils les transmettent au pouvoir judiciaire alors qu'il ne découle pas des faits constitutifs des infractions pénales. Comment Jimmy Munganga décrit les rapports entre les deux institutions? Quelle en est la perception de l'IGF? Les deux personnalités ont répondu aux questions de Jeff Ngoï Molonda. Veuillez suivre.
L'IGF, faisant partie de ce corps de contrôle, a cette obligation-là de transmettre à la Cour des comptes les rapports de ce contrôle. J'ai expliqué à l'inspecteur général, chef des services, que ce n'est pas pour rien que le législateur a prévu cela. Le législateur a prévu ce mécanisme pourquoi? Parce que lorsque nous faisons le contrôle, c'est pour notamment constater les cas de non-conformité aux règles établies. Et lorsqu'il y a ce cas de non-conformité, ce comportement peut occasionner soit une infraction, auquel cas, s'agissant de l'IGF, ils saisissent le procureur de la République, mais ces cas peuvent aussi être constitutifs de faute de gestion. Et dans ces cas, c'est la Cour des comptes qui doit être saisie, parce qu'il n'y a que elle qui a la compétence de poursuivre les fautes de gestion. Et je suis content que l'inspecteur général chef des services l'ait compris déjà lui-même.
Monsieur l'IGF, est-ce que vous avez compris le message et quelle passerelle établissez-vous entre votre institution et la Cour des comptes?
Nous avons échangé de façon fructueuse. Je dirais que l'objet principal, c'est que le souci, c'est de valoriser la fonction contrôle.
Rendons-nous au Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Lubero, où le gouverneur des provinces, le général-major Évariste Kakule-Somo, a lancé mercredi les travaux de construction du pont Kisalala. Cet ouvrage stratégique doit relier les entités agricoles et pastorales au nord-ouest de Lubero Centre, chef-lieu du territoire. Le lancement intervient alors que le gouverneur séjourne dans la région pour s'imprégner de la situation sécuritaire, socio-économique et humanitaire d'une population fortement touchée par l'insécurité. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Coupé de circulation depuis plus d'une année, Le village de Moulo, situé à 25 km de Butembo, et d'autres entités agricoles et pastorales du nord-ouest de la commune de Lubero seront bientôt reliés grâce à la construction de ces ponts stratégiques. Depuis que le pont Kisalala avait été emporté par les eaux de pluie, après un long état de délabrement, les habitants étaient contraints à des longs détours pour évacuer leurs produits champêtres vers les centres de consommation, notamment à Lubero Centre. Moïse Kasereka Mouassa, habitant de Lubero, revient sur l'importance de ce projet.
Ce pont est important parce qu'il sera là sur la nationale et raison pour laquelle on veut voir que c'était déjà délaissé. Le gouverneur a jugé mieux lancer le pont ici pour que les deux quartiers, Moulo et Lubero, soient désenclavés.
Signalons que ces travaux de construction du pont Kisalala, financés par le gouvernement provincial du Nord Kivu, dureront 4 mois et seront exécutés par l'entreprise Build Business. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Grâce à la coordination provinciale de l'environnement dans la province de la Tchopo, certains agents et cadres ont signé un mémorandum adressé au gouverneur des provinces mettant à cause les coordonnateurs provinciaux de ce service. Dans ces documents, ces agents accusent leurs coordonnateurs de bien des griefs, notamment la malversation financière, la confiscation des attributions reconnues à certains chefs de bureau et l'élaboration d'une mise en place mettant de côté certains anciens agents au profit des nouveaux qui lui sont proches. Ces mémos ont été remis mercredi au gouverneur des provinces. Ils sollicitent son implication afin de restaurer un climat de paix dans leur service. Un extrait de ces documents est lu par leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par Jacques Mokonkole.
1. La mégestion et détournement des fonds de la rétrocession issus de la DGRAD depuis le mois de janvier 2025 à ce jour. 2. La confiscation des attributions des chefs de bureau malgré les rappels à l'ordre des autorités hiérarchiques, tant provinciales que nationales quant à ce. 3. Manque de collaboration avec les chefs de bureau. 4. Abus de pouvoir. 5. Accusation intempestive de ses collaborateurs au parquet, à la police et à l'ANR sans preuve matérielle corroborant les dites accusations. 6. Et spécialiste pour induire les autorités en erreur. Et les derniers en date est d'avoir soumis auprès de la ministre d'État sortante de l'Environnement une mise en place irrégulière où il a remplacé les anciens cadres et agents par ses frères, beaux-frères, nouvellement admis sous statut en violation de la procédure légale en la matière. 7. Nature conflictuelle et dictature aiguë. 8. Désaffectation sans procédure des matériels de la Conseil provinciale de l'Environnement. De ce qui précède, nous demandons à l'autorité de prendre des mesures idoines pour que le climat soit restauré à la Conseil provinciale de l'Environnement.
En réaction, les coordonnateur provincial de l'environnement rejette ces allégations d'un revers de la main. Selon Félicien Malou Lissambola, 15 agents sur 1822 employés de son service ont signé ces documents truffés de contre-vérités. Et ceux qui sont impliqués sont des agents qui veulent évoluer en électron libre. Certains sont même condamnés par la justice. Que ceux qui se sentent lésés ont la possibilité soit d'introduire un recours, soit de saisir la justice, souligne-t-il. Avant d'aller plus loin, lancement au début de cette semaine en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, de la semaine de la foresterie communautaire. Cette activité permettra aux participants d'exposer les différents produits agricoles, mais aussi d'évaluer la gestion des concessions forestières octroyées aux communautés locales sur base de l'arrêté du gouverneur de province de l'Équateur. Plusieurs organisations actrices de la gestion des forêts venues de la République centrafricaine et du Congo-Brazzaville ont pris part à cette activité. Des détails avec Askin Zigbatayoro.
C'est le gouverneur de province Bobo Boloko Bolumbu qui a lancé cette semaine de la foresterie communautaire. Cette activité est une rencontre propice pour présenter les résultats de la gestion rationnelle des 92 concessions qui ont été octroyées aux communautés locales dans les territoires d'Ingende et de Lukolela. Guilemba Lemola, représentant des peuples autochtones, explique ici l'attente des communautés locales bénéficiaires des concessions forestières.
Nous sommes vraiment très très satisfaits, c'est parce que nos CFCL nous appartient pour l'instant. Par rapport aux attentes, au lieu que tous ces CFCL soient comme les documents simples, nous demanderons les appuis techniques et financiers, non seulement auprès de l'État congolais, mais auprès de tout le monde qui accompagne la communauté dans le processus de la foresterie communautaire, pour que nos CFCL soient vraiment gérés de la manière responsable.
Le CFSL auquel fait allusion Guilhem Mbalemola veut simplement dire les concessions forestières des communautés locales. Par ailleurs, selon les organisateurs, les participants réfléchissent également sur le processus du cadre légal des demandes et d'attribution des concessions forestières des communautés locales. En outre, renforcer les capacités des communautés locales pour la gestion et exploitation rationnelle de forêts.
Actualité internationale.
Après le Rwanda et Twatini, le Soudan du Sud, c'est au tour de Kampala de conclure un accord sur les migrants avec le gouvernement américain de Donald Trump. L'Ouganda, déjà premier pays d'accueil du continent avec plus de 1,7 million de réfugiés sur son territoire selon l'ONU, et le dernier pays du continent a annoncé ce jeudi 21 août avoir accepté de recevoir des migrants envoyés par Washington sous certaines conditions.
L'invité.
Nous recevons comme invité les coordonnateurs de l'ONG PAMI, programme d'appui à la lutte contre la misère. Clément Bavukai Ntaboba parle ici du projet de réduction des violences communautaires que son organisation vient d'exécuter dans les territoires de Nirangongo. Ce projet a bénéficié à au moins 200 jeunes, filles et garçons affectés par les conflits armés dans le groupement de Munigi. Quel a été son impact? Réponse de Clément Ntaboba dans cet entretien.
Monsieur Clément Bavukai, bonjour.
Oui, bonjour.
Parlez-nous d'abord de ce projet-là.
En fait, PAMI a implémenté un projet d'activité génératrice de revenus, formation professionnelle et scolarisation des enfants à risque de conflits armés. Ce projet était financé par la MONUSCO dans la section MONUSCO Affaires Civiles. La durée du projet était de 6 mois dans le département de civière et la réduction des violences communautaires. Le projet en soi ciblait 200 bénéficiaires directs. Parmi les 200 bénéficiaires directs, il y a 50 enfants qui ont été réinsérés dans l'éducation, donc la réinsertion scolaire de 50 enfants, dont 25 filles et 25 garçons dans 5 écoles secondaires de la place. Il y a 100 enfants qui ont été orientés dans la formation professionnelle dans 5 filières, notamment la filière pâtisserie qui a encadré 49 jeunes à risque. Le tissage, c'est 20 personnes. Le tressage, 10 personnes. La réparation moto, c'est 8 personnes. À part ces 100 personnes qui ont été formées dans les professionnels, les 50 parents maintenant des enfants là qui ont été réinsérés à l'école secondaire ont aussi suivi la gestion des AGR, les activités génératrices des revenus. Et après la formation, ils ont été aussi réintégrés. On a appuyé leurs AGR pour afin qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur ménage et assurer la continuité de la prise en charge scolaire, de la contribution la prise en charge scolaire, surtout dans l'achat des kits scolaires, les uniformes, les cahiers, etc. En fait, ils ont leurs activités génératrices de revenus qu'ils exercent depuis longtemps et qui les aidaient à subvenir aux besoins de leur ménage. Ce que nous avons fait, nous avons appuyé leurs activités afin qu'ils puissent continuer à assurer la prise en charge de leur famille.
Et aujourd'hui, maintenant, quel est l'impact de ce projet-là?
En fait, l'impact est palpable, puisque avant d'abord l'implémentation du projet, Lorsqu'on faisait les évaluations officielles, il y avait tant de conflits dans la zone. Il y avait toujours des discordances communautaires entre la population, soit de Bouvira, de Munigi. Les gens ne s'attendaient pas très bien. Mais à travers ces projets, les activités de rapprochement communautaire, surtout pendant les activités champêtres, toutes les communautés, les parents d'élèves se mettaient ensemble alors qu'ils viennent des ethnies différentes. À travers ces activités, actuellement, vraiment, il y a la promotion de la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Aussi, à travers la réinsertion de ces sans enfants qui ont fait les professionnels. Actuellement, puisque parmi ces enfants, il y a les EAGA, les enfants ex-associés aux forces et groupes armés, il y a les jeunes à risque, les jeunes victimes de violences sexuelles, les filles et mères. À travers ces activités maintenant, ils se sont déjà réintégrés dans leur famille et ils appuient actuellement leur famille à subvenir aux besoins de leur ménage. Aussi, nous avons mis en place un moulin communautaire et à travers ce moulin, dans le village de Bouhima, c'est un lieu qui n'avait pas connu même le courant électrique, mais à travers le raccordement du moulin qui est là maintenant, qui est opérationnel et qui dessert la population de la place, d'autres personnes maintenant commencent à bâtir leur maison aux alentours et ils pourraient utiliser aussi ces courants pour subvenir aux besoins de leur, par exemple, la charge et autres besoins qui nécessiteraient les courants électriques.
Oui, qu'est-ce que vous envisagez en perspective pour accompagner les bénéficiaires de votre projet pour que ce ne soit pas un effort qui va se perdre dans la nature?
D'accord. En fait, on avait défini les stratégies de durabilité du projet. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place et qui est opérationnel, qui fait toujours le suivi des activités du projet, assurer la durabilité des activités du projet. Par exemple, pour les moulets d'abord, ils ont déjà instauré un système de maintenance où la population pourrait contribuer un peu à faire que les moulets soient toujours opérationnels, même après la fin du projet. Autre chose, nous avons groupé les bénéficiaires des activités professionnelles en unités autonomes, puisque là, les contrôles et eux aussi se partagent l'expérience pour la survie de leurs activités. Il y a beaucoup de gens qui nécessiteraient aussi être pris en charge par le projet, mais vu que n'a pas aussi cette capacité de répondre à tous les besoins de la population, raison pour laquelle on a minimisé le nombre de bénéficiaires. Nous n'avons que 200 bénéficiaires directs, alors que les besoins sont vraiment énormes dans la communauté, mais la réponse est toujours limitée.
Monsieur Clément, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal parlé, coordonné et supervisé par Richard Junior Kamunga et mise en onde par Billy Landry Betou. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.